L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et en rediffusion à 18h. Le jeudi, c'est agriculture au moins une fois par mois avec notre partenaire, le réseau CIVAM du Finistère, réseau de la paysannerie et de la ruralité. Aujourd'hui, c'est la question des semences et des plants qui nous intéresse. À l'heure où la fabrication de plants et de graines devient un enjeu international, financier, une bataille que se livrent des géants qui modifient génétiquement le végétal pour, disent-ils, mieux l'adapter au changement climatique. Ça, c'est un monde. Mais de l'autre côté, il y a celles et ceux qui livrent une autre bataille, celle de la préservation des semences anciennes, celle de leur accès libre, sans droit de propriété, parce que la nature n'appartient à personne. Arnaud Amos en fait partie, il est installé à Brasparts, et c'est Valentin Hilleret, l'animateur du CIVAM du Finistère, qui est à ses côtés. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Arnaud Amos, racontez-nous déjà votre parcours, comment vous êtes devenu producteur, et pourquoi Brasparts, tout ça, quoi.
Oui, ben en fait, moi, j'ai plutôt au départ une formation en environnement littoral et j'étais sur Brest. Et en fait, c'est vrai que c'était difficile de trouver un emploi à long terme dans ce domaine de l'environnement littoral. Et puis, en fait, j'ai complètement changé de voie en 2004. Je suis allé travailler à Biocoop, magasin Biocoop maintenant très connu. Donc, c'était à l'ouverture du deuxième magasin sur Brest. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin. Je me suis vraiment amusé en découvrant ce métier jusqu'en 2008 où en fait, il y avait quand même une question qui m'interpellait sur l'agriculture biologique, les filières. Et en fait, c'est vrai qu'on était en plein essor de l'agriculture bio. Et je voyais une modification un peu de la réglementation européenne. On voit aujourd'hui que c'est tout à fait... Enfin, ça a basculé vers le côté toujours plus de production. On a abaissé la réglementation de l'agriculture bio. Enfin, voilà. Donc, tout
le bio-industriel, quoi.
Le bio-industriel, fait. Voilà. La réglementation était vraiment faite pour le bio-industriel. Et du coup, je me suis intéressé en parallèle plutôt à l'agroécologie. Donc, notamment par des lectures d'ouvrages de Pierre Rabhi. Et c'est vrai que là, c'était une découverte. Je me suis très, très vite passionné par cette approche donc, agroécologique, notamment avec la philosophie de Pierre Rabhi. Et je suis allé me former donc, à Terre Humanisme en Ardèche en 2008 pour devenir animateur en agroécologie. Et très vite après, tout s'est enchaîné. J'ai quitté rapidement Biocoop. J'ai créé une association sur Brest qui s'appelle Terre des Possibles, qui existe toujours actuellement. Et pour démarrer en fait, des animations, de la transmission, donc de savoir et savoir-faire en agroécologie. Et c'est vrai, bon, j'étais en milieu urbain à Brest et bon, je voyais la limite arriver. Et c'est vrai que je me disais, bah, je serais mieux à la campagne avec des projets plus ambitieux, entre guillemets, et vraiment de m'installer. Donc avec ces connaissances, notamment sur la production de plants et de semences. Et puis bah, un jour avec ma compagne, regardant les petites annonces, on a trouvé quelque chose à Brasparts. On est allé voir et ça a été le coup de cœur. Voilà, et ça, c'était en 2014.
Et quand vous dites que vous avez trouvé quelque chose, c'était quoi ? C'était une
alors,
exploitation
oui, alors,
à
non,
vendre ?
Alors justement, pas du tout une exploitation. Une maison avec un grand jardin, 2500 m² de jardin, où déjà ça donnait un beau potentiel, contrairement à un petit jardin de ville à Brest. Mais on savait que ça allait bouger dans le territoire, dans le village où il y avait cette habitation avec ce jardin, que j'allais peut-être pouvoir avoir accès à des terres, parce que j'ai pas du tout de formation agricole, j'ai pas suivi de parcours agricole, d'installation agricole, on va dire officielle. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, donc une fois qu'on a acheté ce bien avec ce grand jardin, et ben j'ai pu, je vous épargne tous les détails parce que c'est pas forcément l'objet du jour, mais j'ai pu avoir accès à une parcelle d'un hectare où là, bah, c'était le paradis pour moi puisque c'était juxtaposé à la maison. Et là, j'ai commencé à mettre en place les cultures, mise en place de la pépinière pour faire des plants potagers et très vite après, donc production de semences.
Ouais, vous aviez quand même évalué quelle surface minimale il vous fallait.
Non, en fait, j'étais vraiment parti sur l'idée pas du tout mécanisée. Ça, je ne voulais pas partir sur plusieurs hectares. Je n'étais pas aussi forcément sur avoir des animaux en complément de la production végétale. Donc, très vite, je me suis rendu compte, bah, déjà à la main, juste avec quelques outils quand même mécaniques, hein, tondeuses, débroussailleuses voilà, pour entretenir le lieu. Mais sur un hectare 5, en fait, je me suis dit, là, j'ai le terrain qu'il me faut. Je savais que ça suffirait. Aussi, en lisant des ouvrages sur le concept qu'on appelle micro-ferme, c'est pas mal développé aux États-Unis. Ça arrive un peu plus en France. Il y a une association qui s'appelle, enfin une structure, je ne sais pas s'ils ont un statut associatif, mais Microferme d'Avenir, je crois. Bon, il y en a une qui est très connue hein, dans le domaine de la permaculture. Le bec est loin avec les critiques qu'il peut y avoir, mais bon,
c'est en Normandie,
voilà,
et
en
c'est
Normandie,
plutôt du maraîchage. Quoi.
Et c'est plutôt du maraîchage, voilà. Et c'est vrai que moi, au départ, il y avait une idée aussi de faire du maraîchage.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous voilà. auriez pu choisir de produire des aliments, on va dire, et plutôt que des semences ou des plants.
Quoi. Voilà, alors c'est vrai que de par mon parcours, j'avais rencontré auparavant beaucoup de maraîchers, et je savais que sur un hectare, c'est pas viable. Ça, c'est clair que...
La surface qui a déterminé votre production, finalement, c'est
ça ? Au final, oui. C'est vrai que moi, j'avais besoin d'une un peu plus de place pour faire un grand jardin. J'ai démarré avec la pépinière, donc au départ, c'était une petite pépinière qui était dans la cour. Hein. C'était 40 mètres carrés. Et
il
puis
faut
après,
forcément une serre dans ces cas-là aussi.
Pour la pépinière. Ouais. Pour la pépinière, oui. Pour la production de plants, c'est vrai qu'il faut une serre. Et après, quand j'ai vu que je pouvais installer une serre plus importante, qui est encore aujourd'hui en place, je travaille avec juste un tunnel de 250 mètres carrés. Et après, le reste, les cultures, un hectare me suffisait largement. Donc en fait, la production de légumes, elle aurait été en complément de la production de plants, ce qu'on appelle le surplus de jardin. Mais les marchés en fait où j'allais commercialiser mes plants, j'étais à côté d'amis, de copains, enfin voilà, qui faisaient déjà de la vente de légumes, donc je me voyais pas venir avec mes quelques caisses de légumes, voilà. Et d'ailleurs eux faisaient du plan, ils ont arrêté quand je suis arrivé sur les marchés. Donc voilà, c'est l'entente cordiale sur le marché. Donc très vite, je me suis dit, dans le maraîchage, production de légumes, on va faire pour nous. Une recherche, et c'était aussi un volet que je voulais vraiment mettre en place, parce qu'on en parle beaucoup, l'autonomie alimentaire, faire tous ces légumes sur l'année et tout, c'est pas facile, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un objectif qu'on a atteint, et on en est assez fiers, parce que c'est pas évident, avec
donc
tous les aléas.
Vos légumes pour
voilà,
vous,
donc ça, on est complètement autonome au niveau production de fruits et légumes, enfin fruits, ça arrive, puisque le verger est planté que depuis 2-3 ans, donc les premiers fruits vont arriver les prochaines années, mais en légumes, oui.
Et donc, vous êtes dit, économiquement, produire des plants et des semences, c'est viable. Enfin, vous avez calculé. Est-ce que vous avez fait appel au CIVAM à ce stade-là,
oui.
peut-être
voilà. Alors, c'est vrai, notamment Valentin, qui m'a accompagné sur ma formation, et notamment pour choisir ses statuts. Hein, c'est une formation que propose le CIVAM. C'est vrai, comment se dépatouiller dans tout ça, dans quelle case rentrer, hein, parce que c'est un peu ça. Et puis, d'essayer de s'y retrouver. Par contre, c'est vrai que j'ai tout fait progressivement. J'ai pas fait forcément de gros budgets prévisionnels, j'ai plus fait en fonction de comment s'était déroulée l'année. Si ça avait été une année correcte, que j'arrivais à équilibrer financièrement, ce que je rentrais, je réinvestissais petit à petit. Et bon, j'avoue aussi que c'est parce que ma compagne travaillait à côté. Et c'est vrai que ça a permis sur les 2-3 premières années de réinvestir ce qui rentrait au niveau du chiffre d'affaires.
Et bon, on va repréciser après ce que vous faites exactement, mais ce sont des plants et des semences pour les particuliers uniquement, pour l'instant.
Voilà, alors c'est vrai que l'objectif aussi au départ était de faire que pour les particuliers, parce que la surface ne permet pas, ma surface de travail, mon système de travail ne permet pas de produire en quantité pour des maraîchers, parce que dès qu'on fournit des maraîchers, il faut quand même faire du volume. Par contre, c'est vrai que j'ai quelques amis, collègues maraîchers, des fois qui viennent se dépanner un peu chez moi. Mais c'est vrai que je ne recherche pas une clientèle de maraîchers. Petite parenthèse, si aujourd'hui des personnes veulent s'installer en production de plants pour des maraîchers, il y a de la place, il y a de la demande. Les maraîchers locaux ont vraiment envie de se fournir en plants de qualité au lieu d'aller dans des grosses structures qui produisent des plants.
Et d'ailleurs, quand vous êtes installé, est-ce qu'il y avait d'autres producteurs de plants comme ça dans le même style que vous, quoi, pour des particuliers
Alors, dans le secteur que je suis, Brasspa, on va dire les Monts d'Arrée au sens large... Si Cisin est dans on va dire c'est les Monts d'Arrée, il y avait déjà une structure, oui. Je pense à Caroline, mais il y a une plante. Donc c'est vrai qu'elle a été installée depuis très longtemps. Elle s'est petit à petit plus orientée sur la production de plants potagers. Parce qu'en effet, il y a de la demande. Hein. C'est sûr que le particulier a envie d'avoir du plant de qualité. Avant, elle n'était pas forcément dans ce domaine, mais bon, c'est très bien qu'aujourd'hui, il y a de l'offre. Donc c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en 2015, je me suis vraiment installé. On n'était pas nombreux. Il y a Caroline à Cisin. Moi, j'arrivais sur Brasspa. Et c'est vrai que depuis maintenant 7 ans, oui, ça arrive. Là, j'accompagne quelqu'un qui s'installe sur Saint-Rivoil. J'ai accompagné il y a 2 ans une autre personne qui s'installe à La Feuillée. Donc, ça se resserre, oui. C'est sûr.
Vous accompagnez, donc vous n'avez pas peur des concurrents, en tout
non,
cas.
Non, moi, je n'ai pas du tout peur de la concurrence, dans le sens où, déjà, je comprends des personnes qui sont en reconversion professionnelle aujourd'hui avec ce qu'on vit dans la société. Donc moi, je suis plus sur de l'accompagnement. Par contre, on essaye de faire ça intelligemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas empiéter sur le terrain de vente d'une personne. On essaie de voir si c'est possible, s'il y a d'autres débouchés. Moi, c'est vrai que j'ai revu en 7 ans, j'ai complètement changé de mes modes de vente entre ce que je faisais il y a 7 ans où j'étais plus sur des marchés locaux, beaucoup d'événements, des fêtes aux plantes et tout. Aujourd'hui, maintenant, parce que j'ai développé depuis un an la vente sur place qui était beaucoup demandée et aujourd'hui, je m'en sors. On verra comment sera l'année 2022, mais pour l'instant, je m'en sors. Et l'amie qui s'installait à La Feuillée, elle démarre et je lui souhaite vivement que ça marche aussi pour elle.
Et qu'est-ce que vous produisez comme type de plant ? Alors, c'est plutôt potager, plutôt floral ?
Alors, c'est vraiment très orienté potager. C'est vraiment de la production de plants potagers, donc de légumes, hein, des plants de tout ce qui est légumes fruits, tomates, aubergines, poivrons, enfin voilà, légumes feuilles, donc les salades, voilà, tout ce qui est dans la catégorie des légumes feuilles. Beaucoup de fleurs annuelles aussi, tout ce qui va bien en association dans les jardins. Cosmos, souci
qui sert au potager, justement.
Qui sert au potager, tout ce qu'on appelle les associations de culture dans le potager, mais aussi qui ont des propriétés médicinales. Et puis, bien sûr, aussi tout le volet, donc plantes aromatiques et médicinales, avec les plus classiques, les thym, les sauges. Bon, voilà. Tout ça, pour sortir un chiffre, j'ai une production, une collection de chaque année autour de 300-350 variétés, on va dire.
Et comment est-ce que vous les choisissez, ces variétés ? Parce que j'imagine que vous tenez compte du terroir. Enfin, voilà,
alors, je tiens compte du terroir. Après, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de plantes qui peuvent s'adapter. Ça demande des conditions de culture. Je pense comme ça me vient dans la tête. Par exemple, le kiwano. Kiwano, qui est un concombre, on l'appelle concombre aussi d'Afrique, cornu d'Afrique. Et c'est une plante qui peut très, très bien pousser. D'ailleurs, je vois qu'il y a des maraîchers qui commencent à en proposer en vente directe. On le trouve aussi sur les étals, notamment dans les magasins bio.
Il ressemble à quoi, en gros ?
C'est un concombre, hein, c'est un cucumis, hein, pour donner l'espèce. Mais il est très piquant, en fait. Il est orange à maturité, vert, on peut le récolter quand il est un peu vert, il s'attend vers l'orange. Mais il est très, très piquant. Il y en a d'ailleurs, le coup, qui sont passés, qui m'ont parlé, ils disaient, ouais, c'est une bonne grenade, en fait, pour aller sur des manifestations, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur et pour la récolte, on est obligé de prendre des gants. Donc c'est un concombre qui est ovale et très, très piquant.
Il est piquant au toucher, mais pas piquant au goût.
Non, voilà, piquant au toucher. Piquant au toucher, oui.
Et au goût, il a un goût.
Alors au goût, c'est assez exceptionnel. C'est un goût de kiwi, kiwi-banane.
Et c'est un fruit.
Hein. Ah, il se conserve très longtemps en intérieur, à l'abri de l'humidité, dans une cuisine à température ambiante. Ça se conserve là jusqu'à février-mars sans problème. Et le goût, ouais, je disais kiwi-banane. Alors, par contre, moi, je trouve l'inconvénient, c'est qu'il a beaucoup de graines. Mais par contre, le goût est extra. Donc, en jus, c'est vraiment super, très riche en vitamines. Enfin, voilà. Donc, c'est une plante, en fait, on a l'impression... C'est vrai, quand on regarde son origine, maintenant, ça n'a jamais poussé. En plus, brasse-par et mandaré, voilà. mais au final, sous serre, c'est vrai que sous serre, on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Bon, c'est pas pour rien aussi que les gens qui veulent se lancer dans la culture de tomates, ils disent, bah oui, il faut une serre. Et c'est vrai qu'il faut une serre pour...
Oui,
il y a des variétés.
Il y a des variétés résistantes.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'essaie aussi de faire avec les cultures en plein champ. J'essaie de faire un maximum de cultures en plein champ et j'arrive à faire des variétés de tomates très précoces. Hein. Il faut bien choisir ces variétés, c'est sûr. Mais on arrive à en avoir en extérieur, en plein champ.
Et donc, vous faites essentiellement du plant, mais aussi de la semence.
Voilà. Alors, la semence, c'est arrivé il y a 3 ans, quand justement, 3-4 ans maintenant, quand j'ai eu accès à cette parcelle, à ce champ, en fait, j'ai mis en place des cultures. Petit à petit, je me suis dit, parce que moi, en fait, je fais de la semence depuis toujours. Ça fait plus de 15 ans que je jardine.
Voilà. Vous la faites pour vous, quoi, en fait.
Voilà, je la faisais pour moi. Voilà. Le savoir-faire, il est là. De toute façon, quand je suis allé me former à Terre Humanisme, on a appris, on partait de la graine, en fait. Hein. J'ai jamais acheté de plants, ou quasiment pas, pour faire le potager. Donc, je partais toujours de la graine. Après, c'est vrai que de faire de la graine à la graine, c'est encore autre chose. Et surtout, quand on commence à vouloir faire de la diversité sur un lieu, et puis de la qualité pour qu'après la graine elle germe bien. Donc en fait ça s'est fait petit à petit et la recherche aujourd'hui c'est plus alors de trouver des variétés de plus en plus d'adaptées, de les adapter au terroir,
oui,
puisque de les reproduire voilà d'une année sur l'autre c'est sûr que la semence en magazine des caractéristiques qui vont du coup ça va faire une résistance aux maladies, une adaptation et comment ce que je voulais dire, c'est que la, en faisant la graine, là aujourd'hui, c'est plutôt une recherche d'autonomie pour la pépinière.
Mmh. Voilà, c'est-à-dire que je fais. C'est pas forcément pour vendre les graines,
non,
c'est
voilà,
pour vous plutôt.
Voilà.
Quoi.
Ouais. En fait, c'est deux volets d'entrée. C'est-à-dire que soit on va faire de la semence une recherche d'autonomie pour une production, que ce soit du maraîchage ou pour moi, en l'occurrence, de plants, ou alors on devient vraiment semencier. Alors, je me considère aussi semencier, mais je ne fais pas de la semence en volume, en quantité, pour la revendre. Donc voilà, moi aujourd'hui c'est plus une recherche d'autonomie, mais c'est vrai que des fois je me dis, est-ce que je ne travaillerai pas pour quelqu'un ? Mais dans ce cas ça change, là aujourd'hui je suis en diversité, production, vente de semences, je suis sur une centaine de variétés, et c'est vrai que si je commence à produire pour quelqu'un, je pense que je vais devoir basculer à 30-40 variétés et que je devrais faire en volume. Et ce n'est pas forcément ce que je recherche. Aussi parce qu'on aime bien avoir de la diversité dans notre assiette.
C'est ça. Est-ce qu'il y a un volet conservation de variétés anciennes dans ce que vous faites ou pas vraiment
Alors, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'une variété ancienne?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'une variété ancienne? Je pense que le mot-clé, moi, c'est ce qui a, ça a toujours été mon moteur, c'est de dire que mes plants sont issus de semences reproductibles. Je pense que le mot-clé, il est là, c'est vraiment de savoir que la semence, elle est reproductible, donc on peut la refaire dans son jardin. Ancienne, il y a un peu toutes les idées de à quoi il faut remonter, c'est quoi, plus de 50 ans, 100 ans. C'est vrai qu'il y a un ancien catalogue, Villemorin-Andrieux, qui date fin 19e. Hein, donc c'est un peu une référence, c'est là où on a commencé, c'est un peu la référence d'aujourd'hui encore, où on voyait qu'à l'époque, il existait des variétés qu'on trouve encore aujourd'hui dans le commerce. Bon voilà, on va dire que plus de 50, 60 ans, on peut commencer à parler de début 20e. Quoi. Début 20e siècle, on peut commencer à parler de variétés anciennes.
Mais vous pourriez faire éventuellement un collectage aussi dans les environs, dans les jardins de vos clients,
oui,
par exemple, pour
alors,
voir
moi,
qu'est-ce qu'ils ont.
J'ai une très très bonne anecdote par rapport à ça. Un ami, une fois qu'il était de passage à la maison, il est venu avec une boîte, il avait, je sais pas, 15-20 graines de haricots coco de Paimpol. Voilà, vraiment. Et donc, il m'en parle, il me dit, ah, c'était à ma grand-mère et tout ça. Tiens, je te donne ça, moi, j'en ferai rien, je dois déménager, enfin, voilà. Et en fait, c'est une souche que j'ai eue, le véritable coco de Paimpol. Alors qu'en plus, aujourd'hui, on n'a plus le droit parce qu'il y a une appellation contrôlée dessus. Mais moi, je le vends, je l'appelle coco de Paimpol parce qu'il n'y a pas de raison. Il m'a été transmis comme ça, donc je l'appelle comme ça. Je devrais l'appeler plus au coco de Bretagne ou au coco blanc. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'il est vendu d'ailleurs dans les catalogues. Mais en tout cas, je suis très content aujourd'hui d'avoir toujours cette souche qui pousse très, très bien. Et qu'on me l'a transmise et je sais qu'elle vient de très loin. Donc ça, c'est vrai, quand il y a cette passation comme ça de génération en génération de souches locales. Après, en Bretagne, on a quelques variétés qui sont intéressantes et qui sont remises en culture. Donc c'est vrai que ça, c'est assez à garder. Après, il ne faut pas mettre de côté non plus ce qu'on appelle plus variétés modernes. Mmh. Et variétés modernes reproductibles, il y a des créations. Alors malheureusement, en France, on n'est pas trop sur la création variétale, mais aux États-Unis, ça existe. Parce qu'en fait, je travaille en partenariat avec Cocopelli, donc je suis ça de très très près.
Et une association qui justement préserve les variétés anciennes notamment.
Voilà. Et eux, en fait, ils sont sur un réseau international. Ils ont beaucoup de producteurs multiplicateurs aux États-Unis et notamment des créateurs de variétés. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des variétés modernes qui sont superbes, qui sont très très bien. Donc tout ça, c'est de la recherche, c'est de l'évolution pour l'humanité.
Oui, mais justement, vous n'avez pas l'intention de mettre des droits sur les semences que vous pourriez créer ou les plants que vous pourriez créer, enfin, sur les variétés
déjà,
que vous pourriez créer.
Non,
quoi.
Alors c'est vrai que déjà, ça me donne froid dans le dos. Dès que j'entends parler de droits, de certificats, ce qu'on appelle le COV, certificat d'obtention végétale, bon voilà, toute la réglementation sur les semences est très complexe. Ce qui m'a intéressé au départ, c'est de travailler avec les semences qui n'appartiennent à personne.
Oui, libre.
Du domaine
comme on
public,
dit.
Libre.
C'est ça.
Voilà.
D'accord.
Bon, il faut savoir que la réglementation, ce fameux catalogue officiel, par défaut, en fait, il interdit toute cette variété. Alors, non pas sur la mise en culture, mais sur la vente. Oui. Jusqu'à récemment, donc juin 2020, c'était interdit même pour le particulier. C'est-à-dire que le semencier, et c'est pour ça que Cocopelli a été attaqué à plusieurs reprises, et d'autres, sur la commercialisation de semences non inscrites dans ce fameux catalogue. Et c'est vrai qu'alors, eux, ils n'ont jamais cherché à essayer d'introduire des variétés à ce catalogue. Ils ont dit non, le catalogue, qu'il existe pour d'autres variétés, notamment les hybrides fins, non reproductibles, dégénérescentes en tout cas, détenues par des grosses firmes semencières bon, bah, qu'ils fassent leur réglementation là-dessus. Oui, s'ils veulent. Mais par contre, qu'ils ne rendent pas interdit la vente, l'échange, la commercialisation des semences du domaine public, qui n'appartient en fait à personne.
Exactement.
Et moi, c'est ça en fait qui m'intéresse, c'est de continuer. Donc, j'ai été pendant longtemps.
Donc maintenant, on a le droit de le faire.
Enfin, alors, on a le droit pour le particulier. On a le droit pour le particulier. On peut vendre, en fait. On ne va pas se faire taper sur les doigts. C'est pas illégal aujourd'hui de vendre de la semence pour le particulier. Mais on n'a pas le droit encore pour le maraîcher.
Voilà, c'est ça, il y a encore.
Donc, le chemin est encore long parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand même, ça reste le maraîcher qui va nourrir la population. Le jardinier, c'est très bien et j'encourage vivement à faire son potager. Mais
c'est pas facile
déjà et puis ça reste une minorité. Donc, où il y aura une réelle évolution, c'est quand les semences appartenant au domaine public sont vraiment libres de circulation, de vente et que les maraîchers, enfin que plutôt le semencier, il faut le prendre dans ce sens-là, c'est le semencier qui vend de la semence, ben, il ne sera pas dans l'illégalité quand il va la vendre à un maraîcher.
Voilà. D'accord.
Alors ça, aujourd'hui, c'est encore illégal.
Bon. Valentin, il irait le CIVAM. Qu'est-ce qu'il dit en fait à des producteurs, des gens qui veulent produire des plants ou des semences? Quelles sont les spécificités économiques en fait de cette production-là?
Aujourd'hui, un peu comme Arnaud le disait, il y a de plus en plus de gens à vouloir s'installer sur cette production-là. Donc il y a vraiment aussi un choix après de est-ce qu'on va vendre aux particuliers ou à du maraîcher, professionnel, où là ça va changer quand même la dimension de l'activité.
Ouais, parce qu'il faut beaucoup plus de surface en fait, c'est ça,
ouais,
quand on vend aux professionnels.
Ben, plus de surface et puis de la régularité, de la qualité, voilà, une quantité aussi plus importante. Donc, je dirais que c'est pas la même approche quoi du métier.
C'est un peu plus standardisé quand on vend à des professionnels, en fait, c'est ça, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a une vraie attente aussi de qualité, quoi. Ouais. De qualité, de saisonnalité, voilà. Donc, c'est pas du tout la même approche. En tout cas, c'est... En fait, dans ce que dit Arnaud aussi, c'est que sur la vente directe, de manière un peu générale, je pense qu'il y a de la place pour tous et qu'à la base, on démarre souvent sur le marché de plein vent, parce que c'est ce qui vient comme ça. Et en fait, le potentiel de vente directe, que ce soit pour du plant, du légume ou n'importe quel produit, il est immense en fait. Mais il va falloir aller gratter sur d'autres choses, alors comme Arnaud disait, avec des systèmes soit de vente en direct sur la ferme, sans horaire quelque part, où on peut venir de manière autonome. Voilà, il y a plein de choses à inventer.
Et les particuliers, dans l'ensemble, ils cherchent plus des plants que des graines. Enfin, les jardiniers amateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Arnaud Abos.
Je pense qu'on n'a pas du tout le même public. C'est-à-dire que la personne déjà qui va se lancer à partir de la graine, c'est pas rien de faire des plants. Ça demande aussi déjà d'avoir la structure, donc une serre, hein, parce que voilà, il faut qu'il y ait de la chaleur. Ça va être quand même déjà des jardiniers un peu expérimentés. Moi, par contre, c'est vrai, et ça, c'est encourageant, j'ai une clientèle de plus en plus importante tous les ans qui vient chercher du plant et qui démarre le jardin. Et notamment des familles, des jeunes couples avec des enfants qui ont envie d'avoir même un petit carré. Moi, je leur dis, démarrez tout petit, mais essayez de le suivre du début à la fin. Et c'est vrai que c'est plus facile de partir de plant. Donc voilà, ça dépend. Bon, après, moi, par exemple, dans mes catalogues entre plant et semences, il y a des choses que je propose sous forme de semences parce qu'on ne peut pas faire de plant. Je pense au radis. Radis, le maïs, on peut faire des plants, mais souvent c'est plus facile de partir du graine. Voilà, il y a quelques la quinoa, ça fait toujours un peu rire parce que ça pousse. Moi j'ai fait des essais, voilà, qu'on se le dise. Ouais, la quinoa c'est pareil, moi je la vends plutôt sous forme de semences que de plants. Bon, voilà, il y a quelques espèces comme ça, la carotte, on va pas faire des plants de carotte. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y en a pour tout le monde. Moi, j'aime bien dire que c'est important de cultiver la diversité, en fait. Ouais.
Et vous nous le disiez un peu, vous vous êtes adapté. Enfin, c'est la Covid, il y est peut-être pour quelque chose. Vous avez changé votre modèle de commercialisation. Enfin,
oui. Oui, c'est vrai que depuis début 2020, hein, quand cette crise nous est arrivée dessus, là, ça n'a pas été facile parce que moi, j'ai... Jusqu'en début printemps 2020, j'allais beaucoup sur les événements, les fêtes aux plantes. Donc, année 2020, tout a été quasiment annulé. Donc, heureusement, j'avais un site internet qui était opérationnel depuis quelques temps. Donc, les gens ont pu me trouver. Et en plus, avec le confinement en avril, on se souvient, il y avait eu un super temps. Donc, les gens voulaient se mettre au jardinage. Donc, ils sont venus retirer des commandes sur place. Le lieu n'était pas encore adapté. Donc, très vite, on s'est dit, bah, ça y est, il faut se lancer. C'était demandé. On va faire de la vente sur place. Donc, c'est vrai que maintenant, en fait, j'ai gardé juste à l'extérieur le marché de Plébin le samedi matin, en pleine saison, avril, mai, juin. Et sinon, tout se fait sur place. Mais par contre, c'est du 7 jours sur 7. Et même quand je ne suis pas là, on va dire à partir de en juillet, quoi, parce que sinon, avril, mai, juin, je suis quasiment tous les jours sur place au boulot, et bah, y a du libre-service. Oui. Et je suis très content de voir que ça fonctionne. Les gens sont corrects. Ils peuvent passer à n'importe quelle heure en journée, évidemment, mais se servir. Il y a toutes les indications sur place. Et puis, il y a une boîte et ils mettent dans la boîte.
Et voilà. On peut commander en ligne encore ou...
Alors, on peut. Bien sûr que là, j'ai un nouveau site internet, d'ailleurs, depuis début d'année, où c'est plus pratique de passer les commandes en ligne. Donc, ça, les personnes passent commandes. C'est un retrait à la ferme. Donc, aussi bien pour les plants que les semences. Hein. Et c'est un retrait sur place à la ferme où j'amène, par exemple, sur le marché de Plébin.
Et donc, vous êtes à Brasparts. Est-ce que vous avez évalué, en gros, les clients, ils viennent d'où
Depuis que, justement, j'ai la pépinière qui est ouverte, et j'ai relocalisé. C'est vrai que j'ai plus de Brasparciates, des gens des environs qui viennent. C'est vrai que les premières années, comme j'allais plus à l'extérieur et que la pépinière n'était pas ouverte, je n'avais pas beaucoup de clients locaux. Et je suis très content qu'on ait relocalisé, en fait.
Oui, d'accord.
C'est très, très bien.
Eh bien, on va vous remercier tous les deux. On va remercier le CIVAM, qu'on retrouvera dans un mois sur Radio Évasion, le CIVAM du Finistère. Ce sera, le 3 février. Merci.
Merci.